Je suis poissonnier à Carrefour Belle-Épinité. Ce qui se passe dans mon centre commercial est à l'image du pays. Au Carrefour où je travaille, les effectifs ont baissé. Nous sommes 100 de moins qu'il y a 5 ans. À Belle-Épine, en une seule journée, à la veille des fêtes, les pompiers sont intervenus 2 fois dans mon magasin samedi pour évacuer 2 caissières. L'une a été hospitalisée alors qu'on voulait l'obliger à tenir une caisse qui est assez dure, près des frigos. Les accidents de travail sont nombreux en rayon de bouche, charcuterie, poissonnerie. Combien de fois faut-il tenir un rayon tout seul, s'y épuiser et mettre en jeu sa sécurité? Il faut ajouter des pressions insupportables de l'encadrement. Excusez-moi. Avec la loi Macron, le nombre de dimanches travaillés est passé de 5 à 12. Ce n'est pas un hasard si les accidents de travail, ces semaines-là, ont lieu ces semaines-là. Tout le monde est exténué. Bien sûr, les dimanches sont soi-disant volontariats. Mais je suis un des rares à refuser de venir le dimanche. D'une part, parce qu'il faut oser le faire, et d'autre part, parce que les salaires sont au SMIC et un bon nombre de travailleurs, surtout des femmes, payés à temps partiel, imposés. Si le salaire était décent, c'est-à-dire d'au moins 1 800 euros net, comme le réclame Nathalie Arthaud, il n'y aurait plus de volontaires pour sacrifier ces dimanches. Mais les salaires à Carrefour sont au minimum. Par exemple, je gagne chaque mois 1 150 euros net. Alors que je commence à 5 heures du matin, je me réveille à 3 heures du matin, où je finis à 22 heures. J'ai 2 heures de transport. Une à l'aller, une au retour. Bon nombre de caissières à temps partiel imposé gagnent de 800 à 900 euros. Après avoir augmenté les salaires de 0,5% en 2016, la direction de Carrefour propose à nouveau 0,5% pour 2017. Après la loi Macron, Carrefour a tenté d'imposer le travail tous les dimanches matin. De plus, il ne voulait plus majorer les dimanches qu'à 80% plutôt qu'à 200%. Le rejet des travailleurs a été unanime. Alors des pétitions ont eu lieu, des débrayages dans de nombreux magasins. Aucun syndicat n'a osé signer cet accord et pour l'instant, la direction de Carrefour affiche au blanc. Je voudrais maintenant dire un mot à ceux qui disent que ce n'est pas possible d'augmenter les salaires à 1 800 euros net, comme Nathalie Arthaud l'exige dans son programme. Mais les dividendes versés aux actionnaires de Carrefour ont augmenté de 35% en 5 ans. Bernard Arnault, actionnaire de Carrefour, est l'homme le plus riche de France et a comme fortune, d'après le magazine Challenge, 30 milliards d'euros. Un smicard comme moi, pour vivre 2 millions d'années, ou 2 millions d'années, nous faisons tourner l'économie. Il n'y a aucune raison que notre classe sociale sombre dans la misère, la déchéance à cause du parasitisme, de la dictature de cette infime minorité. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des bonnes raisons de voter et de faire voter Nathalie Arthaud. Je les vois tous les jours dans mon boulot. Et c'est une injustice monstrueuse, ce monde.
Alors, chers camarades, nous connaissons donc pratiquement tous les candidats à l'élection présidentielle. Pour ce qui est de la droite, pas de surprise. Fillon est un candidat à leur image. Fillon a promis du sang et des larmes aux travailleurs. Il a promis la hausse de la TVA, de diminuer de 500 000 postes le nombre de fonctionnaires, s'engage à démolir la Sécu, à reculer l'âge de la retraite, à supprimer toute référence légale à la durée du travail, à supprimer toute allocation et aide sociale aux étrangers résidant en France depuis moins de 2 ans. Fillon, tout un symbole. Le même qui prétend qu'il faut une thérapie de choc car les caisses sont vides, fait payer par l'argent public 1 million d'euros à sa femme et ses enfants pour des emplois fictifs. Et comme il estime que tout ceci est légal et habituel, il continue à se présenter au suffrage des électeurs. Pour eux, ces centaines de milliers de bourgeois, c'est naturel de gagner des millions à ne rien faire. Il est révélateur d'une classe politique socialement étrangère à la classe ouvrière et hostile aux travailleurs. Ce sont les mêmes comportements, les mêmes arrogances que l'on retrouve dans le monde bourgeois. Macron, c'est le banquier au service des banquiers. Son bilan de ministre est éloquent. La loi Macron, c'est l'extension du travail du dimanche. le remplacement des trains nationaux par des autocars. Tant pis pour les accidents de la route, tant pis pour les heures perdues, tant pis pour la pollution. Macron, c'est le développement du statut d'entrepreneur, une nouvelle forme de précarité institutionnalisée où tu bosses pour un patron sans sécu, sans chômage, à tes risques et périls pour 5 euros de l'heure. Il a participé à la loi El Khomri qui fait passer le code du travail après les accords d'entreprise et bien d'autres mauvais coups pour les travailleurs comme faciliter les licenciements par exemple. Derrière son sourire de jeune premier, c'est un adversaire impitoyable du monde du travail. Il n'y a pas à dire. Pour un patron, tout est bon dans le Macron. Hamon, lui, s'est fait élire sur la réputation de frondeur au sein du PS. Il a tout d'abord été un ministre obéissant jusqu'en août 2014. Quant au reste, il n'a pas poussé la fronde bien loin. Il n'a pas refusé de voter les budgets anti-ouvriers de Hollande, de Valls, pendant ces 5 ans. Aujourd'hui, Hamon propose un revenu universel et est content de sa proposition. Mais elle ne peut absolument pas représenter une perspective pour les classes populaires. Il parle de 750 euros d'ici 2022. 750 euros, c'est 90 euros en dessous du seuil de pauvreté officiel. Voilà ce qu'a trouvé celui qui se présente comme l'aile gauche du PS et qui veut relever l'espoir de la gauche. Hamon a la bonne conscience d'une dame patronesse qui jette quelques pièces à ses pauvres. Mais comment peut-on vivre avec une telle somme ? Les travailleurs ne veulent pas de l'aumône, ils veulent un travail et un salaire décent. Et pour Hamon, même cet aumône, il est hors de question de la faire payer aux plus riches. L'autre aspect de son revenu universel est l'idée patronale qu'on ne peut rien contre le chômage. Pour lui, le chômage n'est pas dû au capitalisme. Il est dû au progrès technique, aux applications sur portable, au développement numérique. Tout ceci dédouane les capitalistes de toute responsabilité. Pourtant, c'est bien les capitalistes qui sont responsables du chômage. Sanofi, le trust pharmaceutique où je travaille, a supprimé des milliers d'emplois ces dernières années. Ce groupe vient de distribuer 6,7 milliards d'euros aux actionnaires au cours de l'année 2016 sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Au même moment, Sanofi Pasteur, la division vaccins du groupe, met en œuvre un plan de compétitivité. Ce plan dit agilité prévoit la suppression de 4 jours de RTT et impose par an plus de 200 heures supplémentaires non payées pour certains salariés. Surtravail pour les uns et chômage pour les autres. Voilà à l'origine des profits des capitalistes. Rien qu'avec des milliards versés aux actionnaires, Sanofi pourrait doubler son effectif mondial en embauchant 130 000 travailleurs payés 2 000 euros net par mois. Alors la seule solution pour réduire le chômage, c'est de répartir le travail entre tous. Mais ça, c'est Nathalie qui le défend, contre les Hamon, les Macron et les Fillon au service des patrons. Quant à Le Pen, elle ose se poser en candidate des classes populaires. Parce qu'elle n'a pas encore pu servir le patronat au pouvoir, elle se prétend candidate anti-système. Mais toute sa politique est au contraire d'affaiblir le monde du travail en le divisant, en tentant d'injecter le poison du racisme dans les rangs ouvriers afin de le paralyser. Jamais les Le Pen ne dénonceront la responsabilité du patronat dans le chômage et la misère. Si Marine Le Pen fait un gros score, ce seront les travailleurs immigrés, nos collègues de boulot qui vont faire la gueule, certainement pas les banquiers. Alors non, quand on appartient au monde du travail, voter Le Pen, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp, contre ses intérêts. C'est tendre le bâton pour se faire battre. Tous sont respectueux de l'ordre capitaliste et du monde bourgeois. Et une fois au pouvoir, ils gouverneront pour le compte de la bourgeoisie. À l'opposé de tous ces candidats, Nathalie Arthaud se présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Dans les prétendants, à la gauche de la gauche, il y a Mélenchon. Le vote pour Mélenchon n'a absolument pas la même signification qu'un vote pour Nathalie Arthaud. Pour mener sa campagne, Mélenchon a lancé le mouvement La France Insoumise. Le nom est déjà un programme. Nous, à lutte ouvrière, prenons l'insoumission des travailleurs au patron. Lui prône l'insoumission de la France comme s'il y avait un intérêt commun entre un smicard et une Liliane Bettencourt. Et l'insoumission à qui ? Eh bien à l'Europe, à Merkel. Mélenchon, comme tous les personnels politiques, défend le souverainisme, en fait le nationalisme. Il place la lutte sur le terrain national, sur la dénonciation des traités européens, par exemple. Nous, communistes, nous le plaçons sur le terrain social, celui de la lutte de classe. Parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe, de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre travailleurs et bourgeoisie. Les seuls souverains dans cette société, ce sont ceux qui possèdent le grand capital. Soit on se met à leur service, comme veulent le faire tous ceux qui aspirent à venir au gouvernement dans le cadre du système, soit on les combat, et alors on est communiste. Alors laissons les mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie, et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que Nathalie Arthaud parce qu'il est compatible avec le système. Avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives en se raccrochant à un énième sauveur suprême seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de millions de voix qui se porteront sur Nathalie Arthaud auront, elles, contribué à élever la conscience de classe.
Centaines de milliers.
De milliers,
de milliers. Oui,
oh,
soyons
non.
Modestes.
Ah oui, soyons modestes. Excusez-moi, je m'envole. Il faut un programme pour les travailleurs. Et dans cette campagne, nous allons mettre en avant un programme d'action pour les travailleurs, un programme de classe. Pour éradiquer le chômage, il faut un travail et un salaire pour tous. Le premier point de ce programme, c'est éradiquer le chômage. Les travailleurs ne veulent pas être assistés. Nous ne sommes pas des fillons. Ils veulent un travail et un salaire digne de ce nom. La solution est du bon sens et même une évidence. Il faut répartir le travail entre tous. Chacun doit apporter sa part de travail à la société et avoir en retour de quoi vivre dignement. Pour les capitalistes, les choses sont simples. Quels que soient les aléas de la production, quelles que soient les commandes, leur profit doit être garanti. Eh bien, il faut renverser la règle. Il faut garantir le salaire et les emplois de chaque travailleur, quelle que soit la production. Il faut, bien entendu, commencer par stopper l'hémorragie. Il faut interdire aux grands groupes et à l'État tout plan de licenciement, toute suppression d'emplois. Il faut y compris aucun salaire à moins de 1 800 euros net. Il faut 300 euros d'augmentation pour tous. Alors 1 800 euros net, c'est le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, ils doivent être transformés en salaire, car tout le monde doit être intégré dans une activité utile. Nous disons aussi qu'il faut le contrôle des travailleurs sur les entreprises. Dans cette société, les seuls à être contrôlés en permanence, ce sont les travailleurs. Nos patrons savent au centime près ce que l'on gagne. Nos banquiers savent au centime près comment on dépense notre argent. Les patrons ont accès à notre casier judiciaire pour beaucoup d'emplois. Le chômeur, lui, est contraint de se justifier en permanence, fournir des preuves de sa recherche d'emploi. Quel devoir s'impose aux riches ? Aucun. Quand un patron doit-il fournir des preuves aux salariés, aux journalistes ou aux travailleurs qui demandent ce qu'il a fait des richesses créées par eux ? Jamais. Jamais il ne rend compte de rien. Regardez le CICE, le crédit d'impôt compétitivité. 45 milliards envolés en fumée, puisque le chômage a progressé de 1,3 million en 5 ans. Où est passé cet argent qui aurait pu créer des centaines de milliers d'emplois? Interdit de le demander. Pire, un salarié qui met sur la place publique un détournement, un scandale comptable, sanitaire ou financier, n'aura aucune protection de la part des tribunaux. Au nom du secret commercial, du secret industriel, c'est la loi du silence qui s'impose aux salariés. Eh bien, nous disons qu'il faut rompre le secret des affaires. Il faut au contraire imposer le contrôle des comptes. Les travailleurs en ont les moyens collectivement. Tout passe par des travailleurs, qu'ils soient comptables, secrétaires, ouvriers et même majordomes. On verrait alors que l'affaire Fillon n'est qu'une petite plaisanterie à côté des détournements gigantesques de la classe capitaliste. Ils connaissent notre carnet de chèques? Eh bien, nous proposons d'ouvrir le carnet de chèques de l'ensemble de la bourgeoisie, y compris dans leurs paradis fiscaux. On verrait alors qu'il y a bien de quoi permettre à chacun d'avoir un emploi et un salaire digne. Bien sûr, les capitalistes s'y opposeront avec la plus grande énergie. Parce que pour eux, la transparence réelle des comptes, c'est le début de la fin. Mais c'est justement pour cela que cette revendication est fondamentale. Alors voilà notre programme. Tous les autres candidats présentent un catalogue de promesses numérotées qui sont aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. Nous, ce que nous proposons, c'est un programme de lutte, un programme d'action, un programme de survie pour les couches populaires. Il découle de nos besoins quotidiens. C'est un programme radical, révolutionnaire, car nous sommes les seuls à viser la base du système capitaliste, la dictature d'une minorité de la capitaliste sur les moyens de production. À ceux qui nous rétorquent que nos revendications sont utopiques, nous expliquons que si le capitalisme n'est pas compatible avec cette revendication, pourtant élémentaire, un travail digne et un salaire décent pour tous, c'est le capitalisme qu'il faut renverser, pas renoncer à notre droit sur une existence digne de ce nom. Oui, le capitalisme. Oui, le capitalisme est en faillite. Il est lourd d'une nouvelle crise financière, de nouvelles guerres, de nouvelles dictatures si le monde du travail ne conteste pas sa domination. Alors nous sommes fiers d'afficher notre identité communiste, de porter le drapeau des Marx, des Blanqui, des Lénine, de Rosa Luxembourg, des Trotsky, le drapeau des ouvriers et des révoltés du monde entier. Alors votez et faites voter pour la seule candidate communiste dans ces élections. Votez pour le camp des travailleurs, votez pour Nathalie Arthaud.